Vous écoutez
RMC.
Frédéric Thierry est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir,
bonsoir maître, je dois dire. Avant,
on évite les maîtres et les présidents.
Bon, très bien.
Alors, bonsoir, monsieur le candidat.
Ah non.
Alors là, vous vous avancez un petit peu, cher ami.
Je ne sais pas, il fallait bien dire quelque chose. Maître, on ne peut pas. Président, on ne peut pas. Il faut bien trouver quelque chose.
On commence très fort, là.
Je m'apprêtais à faire une introduction, une contextualisation importante. C'est que justement, on a tenu à vous inviter, non pas comme éventuel candidat à la fédération, mais comme force de proposition. Aujourd'hui, vous n'êtes pas un concurrent déclaré à qui que ce soit, même si vous avez été
candidat lors de la dernière élection.
J'essaie d'apporter des idées. Voilà. C'est ça qui m'importe, et c'est pour ça que je suis là à l'afterfoot, qui est la messe du football.
Ça c'est magnifique.
Pas mal, hein.
Ah non, ça c'est parfait.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je trouve ça parfait. Ça va nous faire un jingle.
La messe de 22h à minuit, c'est mieux que le matin. Mais il y a quand même, juste en aparté, il y a quand même, quand on fait des propositions, qu'on a été candidat à la présidence de la Fédé, que le président de la Fédé est en retrait, qu'on connaît les affaires du foot, on ne peut pas s'empêcher de penser que ces propositions, elles ne sont pas lancées en l'air comme ça pour rien. Elles peuvent servir à établir un programme aussi pour, dans quelques semaines.
Non mais là, vous êtes d'une habileté absolument diabolique. Vous essayez de me demander dès le début de l'émission si je vais être candidat. Je peux pas répondre à cette question. D'abord, il n'y a pas d'élection. Il faut quand même le savoir. Il n'y a pas d'élection à la fédération à court terme. Il y en aura une dans 2 ans, fin 2024. On ne sait même pas selon quelle modalité.
Et vous savez que
la loi a changé, etc. Donc ça va obliger la fédération à revoir ses élections. Moi, encore une fois, je ne suis pas là pour parler des personnes. Des hommes ou des femmes, je suis là pour essayer de faire des propositions. Vous savez, moi, dans le foot, la différence qu'il y a entre moi et les autres, c'est que moi, je suis pas dépendant du football. J'ai jamais fait carrière dans le football. J'ai un métier que j'aime. J'ai servi dans le football pendant 25 ans à titre bénévole. Je me permets de le rappeler parce que les gens souvent se disent « Comment il était bénévole ?» 15 ans, président de la Ligue, oui, j'étais bénévole.
C'est pas le cas de votre successeur actuel, par exemple.
C'est pas le cas de mes successeurs, mais je ne le critique pas. Moi, c'est un choix que j'ai fait. Je voulais être bénévole comme les 400 000 bénévoles du foot qui agissent par passion. Moi, c'était mon cas. Voilà, donc, bénévole.
Bon, néanmoins,
donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées.
Alors, on va y arriver. Néanmoins, il y a un contexte. Et si vous le voulez bien, parce que les gens qui nous écoutent, ces histoires de fédé, de ligue, de propositions, je crois qu'ils ont envie qu'à un moment on soit concret. Si vous pouvez l'être et si on peut l'être tous ensemble, ce serait bien. Le contexte, il est, vous l'ignorez pas évidemment, la crise profonde que traverse le football français. On pourrait même dire plus largement le sport français, quand on voit ce qui se passe à la fédé de rugby, quand on voit encore ce qui s'est passé aujourd'hui dans le hand, la situation au niveau des têtes pensantes des dirigeants du sport en France, je crois qu'on a rarement été dans un contexte.
Ajoute le comité olympique français.
Voilà, le contexte.
Le rugby 2023, la Coupe du Monde qui se prépare.
Le contexte est terrible.
Les sans-papiers qui bossent sur les chantiers des jeux.
Il n'y a pas, comme vous dites, d'élection de programmée prochainement. Et sur le papier, c'est 2024. Néanmoins, je pense qu'on est quand même beaucoup, en tout cas moi je m'inscris dans cette liste, à trouver que ce serait bien qu'il y en ait très vite. À savoir que le président actuel, qui s'est mis en retrait, démissionne, et avec lui tout le COMEX, qui a cautionné pendant des années le travail de ce monsieur. Et dans ce contexte-là, il y a 10 jours, vous écrivez un papier dans le JDD, où vous faites des propositions, donc... On n'est pas là pour vous forcer à dire que vous vous présenterez en 2024 ou si c'est plus tôt que tout explose et qu'il y a une élection. Luis Fernandez vous a soutenu sur Twitter aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Vous avez été candidat. Généralement, les candidats d'opposition font toujours entre 2, 3, 4%. Je crois que vous avez fait beaucoup plus, il me semble. Plus de 20%, il me semble, non ?
25%.
Donc, vous avez été à ce moment-là un candidat crédible. Je ne sais pas si le monde du foot garde de vous l'image d'un grand président de la Ligue. On se souvient que nous, on vous avait beaucoup critiqué au moment du projet Foot Pro 2012. Et je pense que cette période-là a été la plus terrible de l'histoire de nos clubs. Nous, c'est un petit peu dans un contexte désespéré qu'on se trouve. C'est qui peut nous tirer d'affaire? Qui peut nous sauver? Comment ça marche? Est-ce qu'on peut réformer le foot français? Est-ce qu'on peut le diriger autrement? Est-ce qu'on peut avoir autre chose qu'un président avec un comex fait de laquais qui valide les décisions après coup? Après coup, comme ça a été le cas pour le plan social, comme ça a été le cas pour
Deschamps.
Pour Deschamps, la prolongation de contrat. Nous, c'est de ça dont on aimerait sortir. Alors nous, on veut bien oublier les critiques à votre rencontre quand vous étiez président de la LFP. On retient le candidat crédible que vous avez été à la 3F il y a un an, deux ans, je sais plus maintenant.
Deux ans.
Et on veut vous écouter concrètement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce marasme? Moi, j'ai fait l'introduction. Maintenant, je ne sais pas dans quel ordre on prend les questions.
Bah, moi, j'ai concrètement, il faut, le premier point, c'est le mode d'élection. On a aujourd'hui une élection, ce qu'on appelle une élection de liste. C'est-à-dire qu'une liste se présente, est élue, et du coup, bah, ça empêche toute opposition concrète, parce que c'est toute la liste qui se retrouve au pouvoir, en quelque sorte. Là, c'est le cas. Hein. Donc, les gens du Comex étaient sur la liste de Le Graët. Est-ce que ça, c'est déjà pas un problème fondamental auquel il faut s'attaquer?
C'est un scrutin de liste, pour être précis, avec une particularité, c'est qu'il n'y a pas de proportionnel derrière, et que la liste qui est choisie part en entier au Comex. Et il n'y a aucune opposition et aucun nom des autres
décisions importantes. C'est le premier problème. Attaquons directement les trucs, si vous voulez. Moi, je suis du genre direct. Hein. Moi, je suis là pour faire des propositions. C'est pas qu'une question d'hommes, la crise de la Fédé, la crise de la Fédé de rugby, la crise de la Ligue de hand. C'est des problèmes de gouvernance. Et moi, ce que je voudrais, c'est faire progresser les idées pour qu'on change le système. Parce que les hommes, c'est une chose. Mais les hommes sont, en fait, l'objet d'un système. Qu'est-ce qui va pas à la Fédé? C'est très simple. Il y a quatre problèmes. Je sais pas si j'ai le temps de donner les quatre problèmes. Premier, c'est ce que vous dites. Il y a pas de pluralisme au comité exécutif. Ce qui est un truc absolument invraisemblable.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour être concret?
Ça veut dire que le président que la liste et les mecs qui arrivent en tête obtient tous les sièges.
D'accord. Il n'y a pas d'opposition à l'intérieur.
Il n'y a aucune.
Après, là-dedans, il faudra s'entendre. Est-ce qu'on veut un comité exécutif qui soit un gouvernement ou qui soit une sorte d'assemblée?
Oui, parce qu'on pourrait vous dire que le gouvernement du pays, qui dirige le pays, voilà, c'est un gouvernement, il y a un président et ses ministres.
C'est tout à fait vrai.
Et l'opposition, elle est hors.
C'est tout à fait vrai, mais en dehors du gouvernement, vous avez des contre-pouvoirs.
Exactement.
Qui n'existent pas à la fédération. Je vais y venir, c'est le deuxième point. Je reviens au comité exécutif. Vous n'avez aucune représentation de la minorité. Tous les élus au COMEX sont des fidèles, par définition, du président.
Oui.
Ils ne vont jamais discuter une décision. J'y ai siégé pendant des années, je sais pourquoi.
Oui, en tant que président de la Ligue.
Je sais comment en parler. J'étais le seul à prendre la parole au comité exécutif. Le seul.
Vous voulez dire au minimum à poser des questions sur le fonctionnement?
Oui.
Au minimum.
Mais bien sûr.
D'ailleurs, parce que vous n'étiez pas sur la liste. Le cas du président de la Ligue, c'est effectivement un exemple.
Vous savez qu'il y a deux postes de droit, le président de la Ligue pro, celui de la Ligue amateur. Le président de la Ligue amateur, il disait rien. Hein. Bon. C'était un dialogue entre Le Graët et moi. Bon. Ça, c'est un premier problème. Regardez le système des élections dans les communes, les départements ou autres. Il y a un système qui n'est pas du tout idiot, qui s'appelle la proportionnelle avec prime majoritaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une majorité, sûr, mais il faut quand même que la minorité soit représentée. Le système est tout simple. La liste arrivée en tête obtient automatiquement la moitié des voix, et le reste, donc les 50% qui restent, sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes, y compris celles arrivées en tête. Vous voyez ce que je veux dire?
Qu'est-ce qu'il faut pour faire passer ça?
Il faut une assemblée générale extraordinaire de la fédération avec un vote à la majorité des deux tiers.
Est-ce que vous pensez que ce genre de choses, ça peut faire son chemin dans le football et que les gens ont envie de ça?
Je pense que ça peut aboutir si on l'explique. Ça, c'est le premier point. Je peux passer au deuxième?
Allons-y.
Le deuxième, c'est le suffrage universel. Attendez. Le suffrage universel n'a pas encore pénétré les instances du football.
Alors, qui voterait?
Les 13 000 clubs.
Les licenciés?
au moins dans un premier temps.
Les clubs. Ouais.
Alors je dis même pas, je vais même pas jusqu'à dire les 2 millions de licenciés.
Ça, c'est voilà. Un peu compliqué peut-être.
Ça aurait l'air démagogique, ouais. On dirait mais Thierrier, il dit n'importe quoi. C'est les...
Oui, et puis dans non. Les 2 millions de licenciés, il y a 600 000 mineurs. Enfin bon, c'est
voilà. Donc moi je me dis bon, allez, les 13 000 clubs. Il y a des fédés qui l'ont fait, hein.
Ouais, mais 13 000 clubs, c'est-à-dire quoi? C'est le patron du club qui voterait? Le
président? Daniel, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as des présidents de district, des présidents de ligue. En gros, les présidents de district, c'est le même système que le COMEX. Les présidents de district, souvent, ils doivent quelque chose au président de la ligue.
Donc, oui, on parle là, par exemple.
Si le président de la ligue dit à ses gars, bah tiens, on vote tous pour Le Graët ou pour Thierrier ou pour Moulin.
On peut donner un exemple. Moi, je veux vraiment que tout le monde comprenne.
Non, mais laisse-moi vous que je t'explique. Tout le monde, en fait, vote d'un bloc à chaque fois. Une ligue, ça représente un bassin de voix et les mecs respectent les consignes. Aujourd'hui, tu as un vote, un club. Bon, bah, c'est impossible que tous les clubs suivent. Parce que chacun va se faire son opinion.
C'est quoi, c'est genre Saïd Njimi qui est.
Saïd Njimi est président de ligue.
Président de ligue.
Donc lui, il a, je sais pas combien, 5 ou 6 districts dans sa ligue.
Le mec qui a succédé à Larqué, pareil.
Lui, il est président de district. Lui, oui. Au-dessus de lui, il a Njimi.
Les districts, c'est en gros les départements, les listes, voilà. Les régions.
Mais il faut y voir clair dans tout ça. Il faut expliquer.
Non, mais en tout cas, c'est un débat. Il faut que les gens en discutent. Alors, vous savez qu'il y a.
Parce qu'aujourd'hui, donc, s'il n'y a pas les 13 000 clubs, ça veut dire que les électeurs, c'est les fameux 200 grands électeurs, c'est ça?
Voilà. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une élection qui ressemble à celle du. Moi, je vais le comparer à celle du Sénat sous la 3e République. Hein, bon, il serait quand même temps que la démocratie arrive au niveau des fédérations. Suffrage universel des clubs, ça me paraît la moindre des choses. Bon, ça c'est le deuxième point. Troisième point.
On détaillera un peu parce qu'il y a des nuances peut-être. Bon, on verra.
Bon, on verra. Je suis prêt à discuter de tout. Encore une fois, je suis là pour apporter ma pierre à la discussion. Ensuite, les contre-pouvoirs. On est tous frappés par l'autoritarisme et le verticalisme de la Fédé, du pouvoir du président. Pourtant, lorsque les statuts ont été revus après les états généraux du foot, on avait prévu un contre-pouvoir majeur qui s'appelait la Haute Autorité du Football. Truc formidable.
Ah oui.
C'est un nom très important. Qui devait être le Conseil de surveillance du comité exécutif.
Ils font quoi?
J'avais déjà entendu parler de la Haute Autorité du Football.
Non, bah justement.
Récemment, ils ont senti du bois. Le président, monsieur Hugo, il a dit, on observe.
Voilà, on est vigilants, il a dit. Ouais, enfin, ils sont vigilants. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis la fameuse crise qui remonte pas aujourd'hui, il y a deux ans.
Ces gens-là, parce que sinon, c'est emploi fictif.
Non, mais c'est effrayant. Non, mais c'est effrayant. C'est-à-dire, en 2020, il y a un rapport d'audit interne qui dit que la situation à la Fédé est intenable. Vous avez entendu la Haute Autorité du Football dire quelque chose?
Non.
Non. Donc, les contre-pouvoirs ont été étouffés. Le Conseil.
Tu vois, juste la dernière fois qu'ils se sont exprimés, c'était quoi, à l'époque de Nice-na, la Haute Autorité?
Non, ils n'existaient pas encore, je crois.
Non, non, elle a été créée
après Nice-na.
On l'a créée après.
Oui, c'est après Nice-na.
Est-ce que le Conseil d'éthique doit être considéré comme un contre-pouvoir?
Alors, moi, je le considère comme un contre-pouvoir. Je suis bien placé pour le dire, puisque c'est moi qui l'avais créé avec Claude Simonnet, rappelez-vous. On avait créé ce Conseil. On y croyait beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand on a vu toutes ces accusations d'abus sexuels?
Là, le président est sorti du bois parce qu'il a demandé la démission de Le Graët, président du Conseil national de l'éthique. L'ancien arbitre, monsieur, comment s'appelle-t-il déjà? J'ai retrouvé son nom. Ah, vous l'avez pas vu?
Ah, écoutez, moi, j'ai rien entendu.
Si, il l'a fait,
Le Conseil de l'éthique.
Le Conseil de l'éthique, si.
La Ligue du football amateur, qui était un petit peu le contre-pouvoir.
L'ancien arbitre lyonnais, j'ai retrouvé son nom.
Elle n'existe plus, non plus. Bon, donc, aucun contre-pouvoir. Dernier point. Est-ce que vous vous rendez compte que le comité exécutif n'a pas le pouvoir de démettre le président ou quel...
Mais personne n'a ce pouvoir.
Non, mais
le ministre l'a pas, parce que sinon il paraît que la FIFA se fâche.
C'est bien ce que je vous dis.
Hein, personne n'a le pouvoir. C'est l'homme le plus intouchable de France.
On a des statuts qui sont faits pour empêcher tout contrôle démocratique et toute transparence. Donc, faut que ça cesse. Donc moi, je propose une réforme des statuts.
Donc le président enfermé dans un système devient un dictateur.
Mais c'est ce que j'ai appelé la dictature institutionnalisée. On l'a voulu, on l'a eu, et on a vu le résultat. C'est pas faute de l'avoir dénoncé pour moi, hein, pendant ma campagne électorale. J'ai eu tout un chapitre sur le changement de la gouvernance, démocratie, transparence. J'ai pas été entendu, je le regrette. Maintenant, cette élection, j'y étais candidat. Mais je savais que compte tenu du système électoral, j'avais très peu de chances d'être élu.
Alors, maintenant qu'on a posé ces quatre grands axes qui sont intéressants, parce que nous aussi, on avait un peu balayé ça. Alors, c'est Patrick Anton, le président du Conseil national de l'éthique, qui a réclamé le départ de Noël Le Graët. C'était le 10 janvier dernier, donc on était en pleine affaire. Lui, il a eu le mérite, en tout cas, de sortir du bois pour le faire. Dans un instant, on continue le débat. On va rentrer dans le détail de tous ces points avec vous. Et puis le 32-16 est ouvert. Et puis je vous donnerai des tendances aussi, parce que nous aussi, on a au téléphone des patrons de ligue, de district qui nous font des retours. Et les choses quand même commencent à bouger. La réflexion là sur ces changements de statut nécessaires commence vraiment à émerger un peu de partout. Donc peut-être que en insistant sur les propositions, en parlant, on œuvre aussi à notre petit niveau à faire changer les choses. Donc faisons-le ensemble. Mais encore
ça, d'abord, je vous en remercie parce que vous êtes les seuls à le faire. Et c'est pour ça que je suis très content d'être là ce soir.
Nous, on est très écoutés par le monde amateur. Il y a 2 millions de licenciés. Je ne peux pas dire qu'il y en a 2 millions qui nous écoutent tous les soirs, de licenciés. Mais enfin, les licenciés connaissent l'afterfoot et donc ils sont à l'écoute et ils sont souvent intéressés par ce qui se passe dans leur club, l'organisation de leur championnat, le coût de leur licence, où va l'argent et tout. C'est des choses qui sont importantes. Donc, on en parle ensemble encore au 32-16 dans quelques instants, juste après un point score au handball. La France est largement passée devant, Arnaud, face à l'Allemagne.
Ouais, c'est fini, Daniel. Il déroule les Bleus, 1 minute 30 encore à jouer, 34-27 pour les Bleus qui seront en demi-finale vendredi contre la Suède. Mention vraiment spéciale pour Rémi Desbonnets, le gardien numéro 2, 13 arrêts ce soir, immense dans la cage de l'équipe de France.
Il y avait un autre gardien qui s'appelait Franck Manteau, c'était au foot avec Desbonnets là. Ouais, c'est
bien. Ils ont failli prendre la soupe en première mi-temps parce qu'en face il y avait un joueur qui s'appelait Knorr.
Ah, pas mal. Allez, à tout de suite dans l'after.